Sands 120 knots to the west.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Quel bon début de soirée pour s'emmitoufler dans une doudou, allumer les chandelles et écouter une émission sur des phénomènes fantômes de psychologie en compagnie de moi-même, Camille Bergeron, à Choix 98.1 Radio X, mais aussi de l'excellent Christian Page, qui a fait rêver plusieurs personnes sur notre page Facebook aujourd'hui avec une demeure, un manoir.
Oui, j'ai... Bonsoir, Camille.
Bonsoir.
Même si j'avais voulu garder une espèce de punch pour dire, bon, je vous dirai pas, ça va être quoi le sujet, il suffit que je mette quelques photographies pour que les gens reconnaissent immédiatement quelle serait notre thématique de ce soir.
Oh oui!
C'est le manoir Winchester. Et bon, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, comme j'allais parler de cette... ce qui est considéré comme la plus grande maison privée du monde. J'ai dit, je vais mettre quelques photographies pour que les gens puissent voir un peu à quoi ressemble le manoir Winchester en question. Il y a eu un film il y a quelques années, on y reviendra d'ailleurs sur la thématique du film, autour de cette maison tout à fait extraordinaire, qui est devenue un objet, un lieu touristique très important aux États-Unis. On se trouve ici un peu au sud de San Francisco. On va revenir là-dessus, mais effectivement, il a suffi de mettre quelques photographies pour que les gens reconnaissent immédiatement le manoir Winchester. Et beaucoup de gens ont manifesté l'intérêt en disant « Ah, j'aurais aimé ça » ou « J'aimerais aller visiter le manoir Winchester ». C'est vrai que c'est un endroit qui est très particulier. On va y revenir.
Et tu as fait beaucoup d'envieux, effectivement. Ouais. Alors, vous avez deviné, effectivement, nous parlerons de l'étrange demeure de Sarah Winchester. Mais d'abord, on l'avait promis hier, avant de se quitter, il y a quand même de quoi de très important qui est survenu dans le domaine aérospatial. C'était un décollage d'essai pour Blue Origin qui, malheureusement, échoué en fin de semaine.
Oui, en fait, c'était pas un décollage d'essai, parce que faut quand même le dire, Blue Origin, bon, pour situer un peu les auditeurs, Blue Origin, c'est le compétiteur d'Elon Musk et de SpaceX.
Oui, Jeff Bezos.
Jeff Bezos, qui est également le fondateur de la compagnie Amazon. Et donc, Jeff Bezos et Elon Musk sont deux sous-traitants dans l'industrie privée qui souhaitent obtenir les meilleurs contrats avec la NASA. Ils se sont lancés dans le domaine de l'aérospatial. Elon Musk, on le sait, avec SpaceX, et Jeff Bezos avec Blue Origin. Blue Origin n'en était pas à son coup d'essai. C'était le 23e lancement qu'il effectuait. D'ailleurs, rappelez-vous, en octobre 2021, c'est Blue Origin qui avait envoyé dans l'espace William Shatner, le très célèbre capitaine Kirk,
oui,
de la série Star Trek. Donc, et au moment où on se parle, Jeff Bezos aura à son actif plusieurs vols habités dans l'espace, des vols touristiques. Je crois que c'est une bonne dizaine de vols touristiques. Donc, la capsule permet d'accueillir des passagers et de les envoyer dans l'espace. Donc, pendant quelques instants, là, un peu moins d'une heure, le vol aller-retour, et les gens se retrouvent donc autour de la Terre. Pas en orbite, mais ils font vraiment, ils entrent dans l'espace. Ils peuvent voir pendant de longues minutes la Terre vue de l'espace avant que la capsule ne revienne sur Terre. Donc, ils en étaient à leur 23e essai. Heureusement, le vol ne contenait pas de passagers. Il faut savoir que la partie où se trouve l'équipage peut être transformée pour accueillir du cargo. Donc, on peut comme retirer des fauteuils, comme on le fait dans un SUV, et remplacer cet endroit-là par du cargo. Et c'est un peu ce que l'on avait fait. Il y avait des équipements à bord qui devaient tester différents systèmes en état d'apesanteur. Et donc, cette partie cargo se trouvait là où, parfois, se tient un équipage. Et donc, la capsule a été lancée, et à peu près 1 minute 30 après le lancement, il y a eu une défaillance du lanceur. La capsule, Même si on retourne au vol Apollo ou si on regarde SpaceX, le principe est toujours le même. On a une fusée et au sommet de la fusée, il y a la partie habitable, le vaisseau lui-même. Et à ce moment-là, donc, la fusée a décollé et 1:30 après le décollage, la fusée porteuse a eu une défaillance, les moteurs se sont arrêtés. Et là, immédiatement, heureusement, ça nous montre que le système fonctionne bien, immédiatement avec l'arrêt de la fusée porteuse, le système de sécurité s'est mis en marche, expulsant la partie où il aurait pu se trouver des passagers. Et cette partie, donc, s'est éloignée du vaisseau endommagé pour retomber avec des parachutes et on a pu récupérer la partie cargo qui était contenue à l'intérieur. Mais évidemment, c'est un dur coup pour Jeff Bezos, c'est un dur coup pour l'industrie aérospatiale, oui. Parce qu'on met les bouchées doubles. Et il faut savoir que Bezos et Elon Musk se font un bras de fer pour obtenir, comme je l'ai mentionné, les contrats de la NASA. Et il y a quelques mois à peine, il y a eu toute une histoire devant les tribunaux parce que la NASA avait accordé à Elon Musk et SpaceX la fabrication du vaisseau qui allait atterrir sur la Lune, l'atterrisseur. Et Bezos s'était plein en disant que la NASA avait choisi SpaceX, mais elle n'avait pas vraiment regardé toutes les soumissions qui avaient été proposées par Blue Origin. Bref, tout ça est allé devant les tribunaux et finalement, on a tranché. Non, la NASA avait fait son choix et le choix était sur SpaceX. Ce qui n'exclut pas Jeff Bezos de d'autres projets de la NASA. On parle, par exemple, parce qu'éventuellement, la station spatiale, elle commence à devenir vieille. Il faudra bientôt la remplacer d'ici quelques années. Jeff Bezos a des contrats avec la NASA pour fabriquer des modules qui serviront à la prochaine station orbitale, si je puis dire.
Ça paraît bien comme contribution, Christian, tes fusées.
Oui, mais un coup comme celui-là, tu comprends que là, il va y avoir enquête parce que tout le domaine de l'aviation et de l'aérospatiale est géré par le Bureau de l'aviation civile américaine, l'aviation et aérospatiale civile, donc la FAA, qui a ouvert immédiatement une enquête pour comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Et bien sûr, toutes les fusées de Blue Origin sont actuellement clouées au sol. Donc, il n'est pas question qu'on envoie de nouveaux vaisseaux dans l'espace, ni ne serait-ce même que des charges cargo. On veut comprendre ce qui s'est passé. Et bien sûr, ça fait mal paraître Jeff Bezos et Blue Origin. Tu comprends? C'est comme n'importe quelle compagnie. Tu ne capitalises pas sur tes échecs. Donc, non. Blue Origin ne capitalisera pas sur cet échec. Et donc, pour l'instant, tout est arrêté. J'imagine qu'au moment où on se parle, Camille, dans les bureaux de Blue Origin, on doit discuter fort. Qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que, bien, c'est un échec, mais en même temps, il faut bien comprendre que les retombées économiques de ça sont énormes pour la compagnie. Là. C'est des contrats annulés, c'est des contrats retardés, c'est des sommes d'argent énormément importantes sur lesquelles on n'aura pas de retombées de l'investissement. Donc, tout ça est à l'arrêt et pour la compagnie, ça coûte excessivement cher.
Je serais curieuse de voir le compteur d'argent qui est.
Oui, c'est ça. Donc, ça... Et faut pas se le cacher, hein, les vols habités depuis à peu près un an et demi maintenant sur Blue Origin étaient un peu le beurre de la compagnie, hein, mm-hmm. parce que un billet pour monter sur le vaisseau Blue Origin pour ce petit 15 ou 20 minutes dans l'espace, ça tourne autour du 200 000 $ américains.
Incroyable.
Donc, si tu as 4 ou 5 passagers payants par vol, puis tu en as produit une dizaine, ben, t'sais, c'est des millions qui sont rentrés. Et donc là, pour l'instant, tu comprends qu'il ne doit pas avoir, on ne doit pas se bousculer au portillon pour des vols habités sur Blue Origin. Hein. On n'a pas, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de monter dans la capsule sans qu'on ait exploré toutes les avenues pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la défaillance de la fusée porteuse de Blue Origin. Donc, mais ça nous montre encore une fois que même si on va dans l'espace depuis les années 1960, à quel point aller dans l'espace est dangereux.
Est une complexité.
Oui, c'est complexe. On y est allé dans les années 60. On a été un peu cow-boy dans les années 60 parce qu'il y avait cette rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique pour qui seraient les premiers dans l'espace, qui les premiers seraient sur la Lune. Donc, on a pris des risques et ça a été, on a plutôt été chanceux malgré des risques importants qu'on a pris, il n'y a pas eu beaucoup de défaillances du côté des Américains ni du côté des Soviétiques. Hein. Par exemple, les Américains, il y a eu l'incendie d'Apollo 1 qui a coûté la vie aux 3 astronautes. Et c'est un accident un peu ridicule parce que les astronautes c'était même pas un vol. Hein. Ils étaient montés dans la cabine. On faisait des tests sur les communications, tout ça. Donc, la fusée était sur son pas de tir. Et là, un incendie s'est déclaré à bord. Et comme l'écoutille était verrouillée, il fallait à peu près 1 minute 30 aux astronautes pour déverrouiller l'écoutille, parce qu'en théorie, tu peux pas l'ouvrir de l'intérieur. Et il a fallu moins de 60 secondes pour que l'équipage soit complètement brûlé, parce qu'on est dans un environnement où on avait de l'oxygène à 100%. Donc, une idée, là, même ce qui est généralement inflammable a pris en feu. Donc, tu comprends que les astronautes ont été carbonisés dans la capsule en moins d'une minute. Donc, ça a été l'accident d'Apollo 1. Et ensuite, quand on regarde les vols Apollo vers la Lune, ce sont plutôt bien déroulé. Il y a eu l'incident d'Apollo 13 que les Américains ont réussi à transformer. C'est un échec, mais qu'on a transformé en succès parce que ça nous a montré également la complexité des systèmes, mais également le système de débrouillardise. On avait 3 astronautes en perdition en direction de la Lune. Pas question d'envoyer une remorqueuse. Il y a quelque chose qui va pas. Il faut trouver avec les moyens du bord comment on peut ramener le vaisseau sur Terre. Et ça a donné une épopée tout à fait fantastique, et je comprends qu'on l'ait adapté au cinéma. Rappelle-toi ce film avec Tom Hanks qui raconte en détail, avec minutie, les incidents d'Apollo 13 et de ramener les astronautes alors qu'ils sont en perdition entre la Terre et la Lune. C'est quelque chose de fantastique. Ce sont les 2 incidents majeurs qui se sont produits durant cette époque héroïque de la conquête de l'espace. Les Soviétiques ont eu aussi quelques déboires. Des astronautes, ils ont perdu également 3 ou 4 astronautes. L'un, les parachutes de son vaisseau Soyouz ne s'est pas ouvert au moment de la rentrée. Et dans un autre cas, lorsque le vaisseau Soyouz s'est décroché de la station Salyut, qui était la station spatiale soviétique de l'époque, une valve est restée ouverte. Il y a eu une décompression rapide à l'intérieur du vaisseau et les 3 astronautes qui étaient à bord sont décédés. Donc, les Soviétiques aussi ont connu des échecs avec des systèmes souvent, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la technologie qu'utilisaient les Soviétiques, déjà que la technologie américaine semblait un peu obsolète, à l'époque, la technologie soviétique était encore plus cafouillée, encore plus artisanale. Et pourtant, ils n'ont pas eu beaucoup d'échecs, pas plus que les Américains. Mais c'était une période très cow-boy et on ne veut plus prendre ces risques. On se rappelle que même avec la technologie, même avec la meilleure des volontés, les meilleurs techniciens, on a quand même perdu la navette Challenger au décollage, hein, qui a explosé après 75 secondes du décollage. Et on a perdu également la navette Columbia, dont une des ailes avait été endommagée au lancement, et au retour sur Terre, le vaisseau s'est disloqué au moment de la rentrée. Donc, c'est des images épouvantables.
C'est un peu ça, Christian, qui m'inspire en fin de semaine, la réflexion de dire, et pourtant, en 2022, avec tout ce qu'on est supposé connaître et toutes les erreurs qu'on a vécues, ça peut se produire quand même. À quel point c'est fragile?
Oui, et c'est pour ça que, tu sais, les gens, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, par exemple, ça fait 2 fois qu'on retarde le lancement d'Artemis 1, hein, avec le vaisseau Orion. Et là, je vois déjà des théories du complot, hein, déjà, si on y est allé dans les années 60, pourquoi ça devient si compliqué d'y aller maintenant? Ça devrait être un pet, comme on dit.
Je te rassure, j'ai pas le petit chapeau d'aluminium, moi, là.
C'est ça, on a toute la technologie nécessaire, etc. Alors qu'à l'époque, dans les années 60, c'était vraiment de la tôle et des casseroles, puis il fallait frapper sur les commandes pour quand ça fonctionnait pas, là, c'est fesse sur le bouton, il va peut-être repartir. C'est un peu cette philosophie-là. Et pourtant, on a réussi à aller sur la Lune. Alors, pourquoi ces retards dans le lancement d'Artemis? Ça alimente les théories du complot, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. C'est qu'on ne veut, à l'époque, moi, je pense que si on avait eu des problèmes comme dans le cas de la première tentative de lancement d'Artemis 1, on n'avait pas une fuite, mais on avait simplement une différence de température sur le moteur numéro 1, je crois. Et cet élément-là a été suffisant pour annuler le lancement. Je suis convaincu que si cet événement-là s'était produit alors qu'on était allé dans cette vision très héroïque et patriotique de la conquête de l'espace des années 60, ce problème-là aurait été jugé mineur et on aurait quand même procédé au lancement, avec le risque que ça représentait, okay. Mais on aurait quand même procédé au lancement. Aujourd'hui, on a appris de nos erreurs et on ne peut plus se permettre ça. Non seulement on ne peut plus se le permettre parce qu'on ne veut pas risquer la vie de nouveaux astronautes ou de cosmonautes, si on parle des Soviétiques, et d'un autre côté, le coût des systèmes engagés est si élevé. T'imagines-tu le coût que représente d'avoir perdu deux navettes spatiales? T'sais, c'est astronomique. Hein? La navette spatiale, pour la génération des plus jeunes qui nous écoutent, ça demeure encore à ce jour le véhicule le plus complexe jamais construit sur Terre. Donc, c'était des systèmes tout à fait extraordinaires. C'était un vaisseau qui était magnifique. Hein, si on regarde des images qui remontent aux années 80, où on voit la navette spatiale décoller et revenir sur Terre, c'était un magnifique oiseau. C'était fabuleux, mais c'était des systèmes excessivement coûteux et on ne pouvait pas se permettre de perdre ces systèmes-là. Et encore aujourd'hui, des vaisseaux comme la mission, rien ne nous oblige à accélérer le lancement, c'est-à-dire qu'on n'a pas un agenda. C'est vrai que la NASA a un agenda, mais si on n'y va pas, si on ne décolle pas en septembre 2022, ben on décollera en octobre 2022.
Ben
sinon,
voilà,
on décollera en décembre 2022. Mais l'important, c'est de protéger les systèmes avec la pensée également de protéger la vie des astronautes qui seront éventuellement à bord de ces vaisseaux.
Tellement d'accord avec toi. Dans un monde où la vie va tellement vite, peut-on prendre le temps de bien faire les choses? Et ce sera que partie remise, tout simplement, Christian.
Ouais. Tu te rappelles, j'ai envie de faire cet aparté. Il faut se rappeler que quand il y a eu les missions Apollo, beaucoup de gens ont oublié ça, les vieux comme moi, on s'en rappelle. Mais les plus jeunes, on oublie qu'on avait une date butoir. On avait le 31 décembre 1969. Ça, c'était la date butoir.
Okay.
Il fallait réussir avant.
Qu'on voulait que ça se passe dans les années 60. Hein?
Oui, John F. Kennedy avait dit, et pour les Américains, c'est le président mort au combat, entre guillemets. Donc, les Américains voient une espèce de culte patriotique à John Kennedy, et on peut le comprendre aujourd'hui avec le recul, on comprend que quel grand homme il a été dans l'histoire des politiques américaines. Mais Kennedy avait annoncé dès 1962, avant la fin de la décennie, la fin de la décennie, c'est le 31 décembre 1969. Avant la fin de la décennie, nous mettrons des hommes sur la Lune et nous les ramènerons sains et saufs. Alors, Kennedy venait d'annoncer une date butoir. Alors, c'est pourquoi, malgré l'incident d'Apollo 1 en 1967, le programme Apollo a été mis un peu en veilleuse. On a revérifié les systèmes et rapidement, dès 1968, on a repris le décompte et il fallait absolument accélérer la cadence pour s'assurer qu'éventuellement des hommes marcheraient sur la Lune avant la fin de la décennie.
Promesse du président.
Oui, et c'est d'ailleurs un peu la perte d'intérêt. Hein? Les gens se posent la question, mais pourquoi on n'a pas retourné sur la Lune, puis tout ça? En fait, la raison, elle est simple. On avait accompli cette promesse que Kennedy avait fait. Kennedy avait dit, nous mettrons des hommes sur la Lune avant la fin des années 60. Et on l'avait fait. C'était mission accomplie. Ensuite, quand on a continué à envoyer des hommes sur la Lune, 1970, 1971, 1972, dans la dernière mission lunaire, c'est décembre 1972, les Américains se disaient, OK, on avait un grand projet de société, mettre des hommes sur la Lune, c'est fait. Alors, pourquoi investir encore autant d'argent dans ces missions lunaires alors qu'on ramène à chaque fois des petits morceaux de roche? Donc, les gens ne comprenaient pas de manière fondamentale tout ce qui était attaché à la recherche découvertes que ramenait ça. Mais les gens voyaient le coût de ça. Et en même temps, l'Amérique s'enlisait. On avait accompli la mission. On avait accompli la promesse du président. Et là, l'Amérique s'enlisait. Elle s'enlisait dans un conflit qui n'en finissait plus au Vietnam où on perdait des soldats et on ne voyait pas le bout de ça. On voyait déjà s'annoncer aux portes la crise du pétrole qui va frapper durement en 1973. Donc, le spectre de tous ces éléments-là étaient présents et on ne comprenait pas pourquoi il fallait continuer de mettre tant d'efforts pour envoyer des hommes sur la Lune. Donc, la NASA, si je puis dire, a perdu le support du public. Et sans le support du public, on avait au départ prévu 20 missions. Hein, on devait aller jusqu'à Apollo 20. Mais avec, sans le support du public, l'émission lunaire était condamnée et on a arrêté avec Apollo 17 en 1972.
Et finalement, là, on laisse place au féminin, ce sera Artemis.
Oui, carrément. Artemis, et on aura la chance de voir dans cette mission, parce que les missions lunaires des années 60 et début des années 70, c'était des missions essentiellement masculines. Mm-hmm. Alors là, on aura l'occasion de voir une femme débarquer sur la Lune. C'est extraordinaire.
Parfait. Christian, je te propose qu'on coupe la poire en deux et pour que le reste de l'émission soit consacré seulement à notre sujet officiel de la soirée, on va faire une courte pause de 2 minutes, le temps de faire un petit refresh.
OK, parfait.
Restez là.
Radio X-Files. Here we go. Execute program. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
La maison actuelle est maintenant une structure gigantesque de 7 étages construite sous les ordres d'une veuve en deuil. Le mois dernier, le conseil d'administration a édicté son droit d'évaluer l'état mental de Mme Winchester afin de déterminer si elle est encore apte à gérer la compagnie.
Mme Winchester, c'est un plaisir d'enfin vous rencontrer.
Croyez-vous aux fantômes, Dr. Press?
Je ne crois en rien que je ne puisse voir ou étudier.
Je ressens leur présence. Leur énergie, leurs histoires non réglées les ont emmenées ici.
Alors, pourquoi toute cette construction?
Les esprits, tués par les fusils, veulent que je construise, docteur. Il faut 13 clous pour les enfermer. Une fois qu'ils trouvent la paix, on peut les libérer. Cet esprit a une force qu'on n'a jamais vue avant.
Merveilleux rêveur, de grâce réveille-toi. Les lumières d'étoiles n'attendent que toi. Les sons de mon cruel perçus la journée.
Je n'ai pas peur.
Conduits par la pleine lune, se sont envolés.
Vous laissez ma famille tranquille. Votre haine ne nous vaincra jamais.
Winchester, le manoir hanté, un film de quelle année, Christian?
2018, et c'est Alan Myron qui joue le rôle de Sarah Winchester. C'est la deuxième fois que le cadre de la maison Winchester servait de scénario à un film d'horreur. Et ici, on a entendu dans la bande-annonce à peu près tous les éléments qui vont marquer cette histoire-là, ou à tout le moins qui vont marquer la légende de la maison Winchester, parce que bien souvent, la légende est un peu éloignée de la réalité.
Oui. C'est basé sur des faits réels.
Oui, c'est d'après une histoire vraie, mais disons qu'ici, l'histoire vraie, c'est surtout d'après une légende vraie à moitié. Donc, on va essayer de démêler ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, et à quel point la légende va exagérer ou minimiser des faits ou aiguiller les amateurs de mystère sur des avenues qui n'ont peut-être finalement que peu d'assises. Notre histoire met en vedette, bien sûr, Sarah Winchester, qui est née Purdue. Elle est née en 1839. Elle est née à New Haven, au Connecticut. Et le 30 septembre 1863, elle épouse William Witt Winchester, qui est le seul héritier de la compagnie Winchester Repeating Arms Company. Donc, c'est la compagnie qui commercialise les carabines Winchester. Et il faut savoir que William Witt Winchester, c'est le petit-fils de l'inventeur de la carabine Winchester. Donc, et tu comprends que c'est la carabine la plus populaire de son époque. C'est la carabine qui a marqué l'histoire de la conquête de l'Ouest. C'est la carabine la plus utilisée durant la guerre de sécession.
Okay.
Donc, c'est une arme excessivement populaire et c'est une compagnie qui roule littéralement sur l'or. Donc, de l'union de William et de Sarah qui devient Winchester, va naître une fille, Annie, qui va malheureusement décéder quelques semaines plus tard. En fait, elle va décéder un mois et demi plus tard. Elle décède le 25 juillet 1866. Et avec la mort de sa fille, Sarah Winchester va sombrer dans une profonde dépression. Et elle va, presque toute sa vie, elle va traîner cet effet, cette situation un petit peu de dépression, de mélancolie. Donc, toute la vie de Sarah Winchester sera marquée par cet état un peu entre deux. Et son mari va décéder, lui, en 1881. Il va décéder, d'ailleurs, de la tuberculose. Il faut savoir qu'à l'époque, à la fin des années 1870 et le début des années 1880, il y avait aux États-Unis une véritable épidémie de tuberculose. Donc, William va décéder de la tuberculose. Et à ce moment-là, Sarah Winchester va hériter de grosso modo 50% des parts de la compagnie Winchester. D'ailleurs, ces éléments-là sont assez bien expliqués et évoqués dans le film dont on a parlé. Donc, elle touche la moitié des parts de la compagnie Winchester, ce qui lui donne une rente quotidienne d'à peu près 1 000 $.
Oh!
Donc, on est dans 1881. 1 000 $ en 1881, c'est 25 000 $ en argent d'aujourd'hui.
Oh, je le prendrais donc, aujourd'hui, un gagnant à vie, là, 1 000 $ par jour, la loterie là, grande vie.
Voilà, c'est 25 000 par jour.
Wow.
Donc, Sarah Winchester touche une rente de 25 000 $ par jour de la compagnie Winchester. Et c'est à partir de ce moment-là, que l'histoire s'embrouille et on va plonger entre le mythe, la réalité et la légende. Pour les besoins de notre discussion, je vais utiliser un peu le temps présent, l'affirmatif, alors que je devrais plutôt utiliser beaucoup le conditionnel.
Okay.
Parce que bon, on oscille entre la légende et la réalité. Mais on raconte qu'après la mort de son mari, Sarah Winchester aurait commencé à s'intéresser au spiritisme. D'ailleurs, comme beaucoup de gens de son époque, c'est pas la première fois qu'on en parle à l'émission, hein. La fin du 19e siècle, jusque pratiquement aux années juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ont été marquées par cette fascination que les gens avaient avec le spiritisme et la communication avec les défunts. Donc, Sarah Winchester va, selon la légende, se retrouver dans des soirées où on s'adonne à faire tourner des tables, à communiquer avec les morts. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'elle va rencontrer un médium de Boston, un certain Adam Kahn's, qui lui va lui... Bon, il parle, il reçoit Sarah Winchester chez lui, fait quelques séances avec elle, et lui dit que la mort... Et on est toujours dans le cas de la légende. Hein, tout se rappelle qu'ici, là, on raconte la légende. Donc, le médium, Adam Kahn, dit à Sarah Winchester, il dit, vous savez, votre fille est décédée à l'âge d'un mois et demi, votre époux est décédé également prématurément. Hein, ça, William Winchester avait que 43 ans au moment de son décès. Alors, il dit, vous voyez, ces deux décès-là, ce sont des morts qui sont conséquentes d'une malédiction. Et cette malédiction, elle est provoquée par la colère des esprits qui sont décédés, de tous ces gens qui sont décédés par les balles d'une carabine Winchester. Écoute, ça fait beaucoup de gens, ça, là. Comme je l'ai mentionné, c'était la carabine la plus utilisée durant la conquête de l'Ouest, la carabine la plus utilisée durant la guerre de sécession. C'est par dizaines, sinon centaines de milliers que se comptent les victimes qui sont tombées sous les balles d'une Winchester.
Oui.
Donc, selon la légende, Adam Kahn dit, ce sont ces esprits errants qui ne trouvent pas de repos, et c'est à cause d'eux que vous avez ces malédictions. Pour calmer ces influences négatives, Adam Kahn dit, ou aurait dit, ou dira, ou dit, bon, on le sait pas trop, mais il réussit à convaincre apparemment Sarah Winchester d'aller vers l'Ouest, hein, aller vers l'Ouest et essayer de, vous devez absolument trouver un refuge, être l'architecte d'un refuge pour toutes ces âmes errantes. Donc, aller vers l'Est et les esprits vous guideront. Et quand vous deviendrez l'architecte de ce refuge aux esprits, rappelez-vous, tant et aussi longtemps qu'il y aura des bruits de scie, tant et aussi longtemps que le martèlement des marteaux se feront entendre, les esprits vous laisseront en paix. C'est ce que raconte la légende, bien sûr.
Oui, la réalité était peut-être
donc,
tout autre.
Donc, Sarah Winchester décide de quitter son Connecticut natal. Elle prend la route de la Californie, apparemment pour accomplir son grand projet, ou peut-être simplement pour changer d'air. Mais néanmoins, elle prend la direction de l'Ouest. Et là, ses pérégrinations la conduisent à San José, dans la vallée de Santa Clara, Ça se trouve, pour les gens, là, situons, on est à peu près à une heure de route au sud de San Francisco. Donc, au moment où elle arrive à cet endroit-là, elle voit une maison en construction. À ce moment-là, ça reste quand même une très grande maison de ferme qui compte plus de 8 chambres. Et en voyant cette maison, selon la légende, une voix aurait soufflé aux oreilles de Sarah Winchester, c'est ici. Donc, Sarah Winchester, qui dispose littéralement d'une fortune inépuisable, convainc assez aisément les propriétaires de cette résidence, de cette grande résidence, toujours en état de construction. Elle les convainc de céder la propriété et de céder les terres qui vont avec. Et à partir de ce moment-là, Sarah Winchester va construire sa maison. Et c'est une construction qui va perdurer pendant 38 ans.
Hein?
Donc, 38 ans. Elle embauche donc des ouvriers, des menuisiers qui vont travailler sur des quarts de travail de 8 à 12 heures. Ils vont travailler 24 heures sur 24, 365 jours par année. Quelle que soit l'heure du jour, les marteaux et les scies doivent se faire entendre. C'est du moins ce que raconte la légende. Et les fantômes, bien sûr. Donc, on engage tout ce beau monde et on commence à travailler et on travaille. Et pour te donner une idée, on passe assez rapidement de cette maison de 8 pièces, on passe rapidement à quelque chose de tout à fait, d'une structure très imposante, au tournant du siècle. Hein, donc, parce qu'au moment où Sarah Winchester va acquérir cette résidence et commencer ses travaux, on est en 1884. 16 ans plus tard, donc au tournant du siècle, on passe des années 1800 aux années 1900, donc on passe du 19e au 20e siècle. La maison, à ce moment-là, écoute, alors 7 étages, c'est une structure qui est complètement anarchique, c'est immense, ça s'étend sur des dizaines et des dizaines de mètres tout autour, c'est si grand que les employés doivent se guider à l'intérieur de la maison avec des cartes pour ne pas s'y perdre. Et Sarah Winchester, au-delà des plans des architectes, parce que bien sûr, elle engage des architectes, mais elle a des espèces de lubies. Apparemment, les fantômes lui parlent.
Oh.
Et elle fait construire toutes sortes de trucs complètement anarchiques. Donc, on a des escaliers qui montent dans des plafonds. On a des escaliers qui montent d'un seul étage, mais qui ont 60 marches, par exemple. Il y a des fenêtres qui donnent sur rien, des portes qui donnent sur le vide.
T'as pris une photo de ça, d'ailleurs?
Oui, d'ailleurs.
Door to Nowhere.
D'ailleurs, c'est amusant parce que quand je suis allé enquêter sur l'histoire de la maison Winchester, on voit d'ailleurs une photo, j'étais avec un caméraman, un de mes bons amis caméramans, Michel Meunier, on voit une photo, moi et lui. Donc, quand on est arrivé à la porte to nowhere, évidemment, j'ai mis la photo, on la voit de l'intérieur, mais on la voit de l'extérieur aussi. Si tu ouvres cette porte-là, là, tu te retrouves littéralement dans le vide, là, tu te trouves à 10 mètres au-dessus du sol, puis tu vas tomber dans le parking.
Ah ouais, OK.
Donc, on ne peut pas approcher de la porte. En temps normal, les gens qui vont visiter l'endroit, ou si des gens qui nous écoutent ont visité l'endroit, quand on arrive à la porte to nowhere, il y a une espèce d'encart vitré qui nous empêche d'approcher de la porte.
Oui, parce que ce serait facile de tomber.
Mais bon, les mérites de la télévision, des enquêteurs, ils nous l'ont enlevé. Donc, on pouvait aller à la porte pour ouvrir la porte, on se faisait des babayes dans le parking. Donc, on a fait le tour. Mais c'est complètement anarchique. Il faut se rappeler que pour Sarah Winchester, tout ça n'a pas d'importance. Donc, elle fait construire des fenêtres qui donnent sur rien, des portes qui donnent nulle part. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est on doit travailler. On doit, selon la légende, on doit travailler, construire, on doit entendre des marteaux, les clous, on doit toujours entendre du bruit pour garder les esprits loin de Sarah Winchester, de protéger en fait sa quiétude et sa paix. Donc, la maison va devenir quelque chose de tout à fait anarchique parce que au-delà des plans des architectes, Sarah Winchester y met son petit grain de sel. Donc, elle arrive, elle dit, bon, ben vous voyez là, ce mur-là, vous allez me faire tomber ça. Vous allez ouvrir ce mur-là, vous allez me construire un escalier. Puis là, ben, tu comprends que les architectes disent, ben là, Madame Winchester, ça n'a pas de bon sens. L'escalier va mener dans le plafond. Ça n'a pas d'importance. Donc, elle donne un peu son avis, fait construire des ailes, des ajouts, des dépendances qui vont se relier éventuellement à la résidence principale. Et tout ça, sans avoir un plan très précis de ce à quoi doit ressembler la construction. C'est un espèce de monstre tentaculaire qui grandit, qui grandit, qui
au
grandit.
Feeling.
Oui, de manière tout à fait. de tout à fait anarchique. Et comme je l'ai mentionné, c'est si grand que les employés se perdent dans la maison. Donc, si t'as pas de carte, tu peux pas rentrer dans la maison. Moi-même, je dois t'avouer que je connais bien les lieux. On a passé des journées entières. Écoute, je me perdais. C'est au détour, là, je me disais, mon Dieu, c'est pas cette porte-là que j'ai pris. Puis là, j'ouvrais une autre porte qui donnait comme dans un placard. Je dis, non, c'est pas cette. Et là, à un moment donné, tu te trompes d'une pièce. Mon Dieu, il y a pas de porte qui permet de sortir de cette pièce-là. Pourtant, je suis bien rentré dans cette pièce-là. C'est hallucinant. Il y a comme des faux murs où tu te retrouves dans la pièce. Et de la façon dont tu es placé, tu vois pas qu'il y a un faux mur qui donne sur un corridor. C'est hallucinant. C'est vraiment, t'as l'impression d'être dans une maison de fous.
Bon.
Ni plus ni moins.
À chaque épisode, je te pose la question s'il y a de la santé mentale là-dedans. Tu le sais, Christian, là,
oui,
si les esprits lui disaient « Ah ouais, c'est là qu'il faut que tu sois.
Ouais. »
Ça se peut?
Ouais. Dans le cas de Sarah Winchester, ça se peut très probablement.
Ouais.
Donc, Sarah Winchester fait construire cette maison-là de manière tout à fait anarchique. Et on a la légende nous dit que ce sont les esprits qui la guident. Et l'idée, c'est à la fois de construire une maison qui deviendra un gîte, un abri pour les âmes errantes, ou encore qu'elle va réussir à permettre de tromper les esprits. Hein? Donc, les esprits vont... La maison est tellement anarchique que les esprits qui seraient dans la maison, c'est comme si c'était un piège à fantômes. Les esprits coincés dans la maison ne retrouveront pas leur chemin et vont laisser Sarah Winchester tranquille. Et en fait, la paix de Sarah Winchester ne sera troublée finalement qu'en 1906, lorsqu'il va... parce que là, on a l'impression qu'elle est en sécurité dans sa maison, mais en 1906... Le 18 avril 1906, il y a un tremblement de terre très important, le plus important du siècle d'ailleurs, qui va secouer la région, le plus important du siècle pour cette région-là, on s'entend, qui va secouer toute la région de San Francisco. C'est ce qu'on appelle le grand tremblement de terre de 1906 de San Francisco, qui est resté là marqué dans les mémoires de l'époque, des journaux de l'époque, et encore aujourd'hui, quand on parle de tremblement de terre, tu peux être certain que les historiens rapidement vont ramener sur le devant de la scène ce fameux tremblement de terre de 1906. Donc, Sarah Winchester est chez elle lorsque le tremblement de terre se produit, selon la légende. On raconte que Sarah Winchester croit que ce sont les fantômes qui veulent s'en prendre à elle, tant et si bien que le jour du tremblement de terre, elle va fuir la résidence principale, va trouver refuge dans une espèce de dépendance liée, qui est quand même rattachée à la maison, mais c'est une dépendance qui est encore inachevée. Donc, elle trouve refuge là. C'est à cet endroit, d'ailleurs, que les menuisiers vont la retrouver le lendemain. Un peu hagard, un peu hébété, et pour des raisons connues d'elle seule, on la sort de cette pièce-là. Bon, elle va bien, on lui explique que c'est un tremblement de terre. D'ailleurs, la maison a énormément souffert du tremblement de terre.
Okay.
Et donc, Sarah Winchester, on la retrouve, on la sort de la pièce, on dit, bon, ça va bien, Madame Winchester, c'est un tremblement de terre, et elle ne peut que constater les dégâts très important à la résidence, et pour une raison connue d'elle seule, elle va faire murer littéralement la pièce où elle a trouvé refuge. Pour quelle raison? Elle ne l'expliquera jamais.
Hein?
On dit également, selon la légende, qu'après cet incident du tremblement de terre de 1906, Sarah Winchester va devenir troublée par une autre lubie. Elle est persuadée qu'il va y avoir un nouveau déluge et que ce déluge va emporter tout sur son passage. Donc, on raconte qu'elle se serait fait construire une espèce d'arche, un peu comme l'arche de Noé, et qu'elle va y trouver, elle va y trouver refuge, dit-on, jusqu'en 1912, donc pendant 6 ans, donc entre 1906 et 1912, elle va vivre dans cette arche. On raconte qu'elle a été construite sur le terrain de la maison. Donc, elle surveille quand même les travaux, mais elle ne vit pas dans la maison. Elle vit dans cette arche pour essayer d'échapper à un tremblement de terre. Pas un tremblement de terre, mais un déluge.
Mmh.
Bon, déjà, disons tout de suite, là, je vais pas vendre le punch de tout le reste, là, mais disons que cette histoire d'arche, là, ça, c'est pas vrai. L'histoire de l'arche, en fait, elle nous vient d'un événement plus tardif. Au tournant des années 1919-1920, hein, Sarah Winchester, elle est quelques mois avant sa mort, elle va effectivement acheter un bateau, mais ce bateau n'est pas sur le terrain de la maison Winchester, ce n'est pas une arche. Elle a pas fait construire ça parce qu'elle craint un déluge. C'était parce que, à cette cette époque, tous les gens de la haute, comme on disait, se devaient d'avoir un bateau. Et Sarah Winchester n'en avait pas. Donc, elle s'est acheté un immense bateau qui était ancré, d'ailleurs, dans la baie de San Francisco. Et c'était à Burlingame, si je me souviens bien. Et elle a passé quelques week-ends sur ce bateau-là. Mais c'était surtout pour le prestige. On devait avoir un bateau. Et d'ailleurs, ce bateau-là, elle l'a gardé. Elle l'a acheté 1919-1920 et le bateau a été détruit en 1923, donc un an après la mort de Sarah Winchester, alors qu'il était toujours ancré dans la baie de San Francisco. Il a été ravagé par un incendie puis il a été détruit. Donc non, l'histoire de l'arche construite sur le terrain de la maison parce que Sarah Winchester craignait un déluge, là, ça c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'elle avait un bateau, mais ça c'est pour toute autre raison. Donc à la mort de Sarah Winchester, on est en 1922.
Elle est décédée de quoi? Est-ce que c'est connu?
Oui, elle est décédée dans son lit d'une crise cardiaque.
Oh.
Donc, une mort qui, finalement, l'a surprise de manière spontanée parce que la veille, elle était en forme. Ben, en forme, entendons-nous, là, c'était quand même une dame âgée. Elle avait 83 ans.
Okay.
Mais elle était, pour son âge, c'est quand même un âge vénérable. En 1922, quelqu'un qui a se rendre à 83 ans, c'est quand même un âge très respectable. Donc, elle va décéder dans son sommeil d'une crise cardiaque. À la mort de Sarah Winchester, pour te situer un peu, là, j'ai mis des photos, mais les photos ne rendent pas justice. Cette maison-là, la maison de Sarah Winchester, compte 160 pièces.
Ah.
Il y a 10 000 carreaux aux fenêtres. Il y a 2 000 portes, 40 chambres, 13 salles de bain, 47 foyers. Et tout ça dans une construction qui est tout à fait anarchique. Et dans cette construction, peu importe les pièces que l'on visite, on peut retrouver l'obsession qu'avait Sarah Winchester. On l'entend d'ailleurs dans la bande-annonce, quand elle dit « Ah, il faut 13 clous pour garder les esprits enfermés
oui.
ou les libérer. » Ben, c'est vrai que Sarah Winchester avait une obsession pour le nombre 13. Elle était très superstitieuse. Je t'ai mentionné qu'il y avait 13 salles de bain. Mais également, quand on visite les pièces, on est attentif, on voit qu'aux fenêtres, il y a toujours 13 carreaux. C'est s'assurer que la fenêtre est divisée pour avoir 13 carreaux. Les chandeliers sur les murs, parce qu'on comprend bien que toutes les pièces n'étaient pas alimentées par des systèmes électriques. Donc, dans bien des pièces, on retrouvait des chandeliers. Tous les chandeliers sur les murs ont 13 branches. Et comme je t'ai mentionné, souvent, il y a des escaliers qui ont 13 marches. Même si parfois la contre-marche est plus petite, même si on disait, bon, on va monter simplement d'un demi-étage, il aurait fallu 5 ou 6 marches pour couvrir cette distance-là. Sarah Winchester insistait pour qu'on ait 13 marches, ce qui faisait des contre-marches excessivement petites. Tu sais, bon, pour faire 13 marches, pour monter d'un mètre de hauteur, c'est quand même incroyable. On
c'est
voit d'ailleurs.
Spécial.
Ouais, d'ailleurs, dans le film, il y a une scène où on voit un type qui visite qui est dans la maison Winchester et qui là, en arrivant dans cet escalier, il dit, oh, c'est quand même étrange, c'est cet escalier. Et là, une des employées, en fait, une nièce de Sarah Winchester qui est là, elle dit, ah, c'est parce que ma tante souffre d'arthrite. Puis le fait que les marches sont très longues, mais très peu haute de l'une à l'autre, ça lui permet plus aisément de monter. Mais en réalité, la véritable obsession de Sarah Winchester, c'était pas tant son arthrite que le fait qu'il y ait 13 marches.
Mais pourquoi avoir une superstition pour le chiffre 13 alors que c'est pas supposé à l'habitude porter malchance? Les hôtels n'ont pas de 13e étage, des trucs comme ça.
Périsse pas mon punch.
Oh
punch,
non,
Camille.
Je m'en vais là où tu t'en vas, je m'excuse.
Ah oui. Pour te situer.
Ça veut dire que je pose les bonnes questions.
Ouais, à la mort de Sarah Winchester, la maison est évaluée à 5 millions de dollars.
Wow.
Donc, il faut se rappeler que pour 1922, c'est quelque chose de tout à fait aberrant. Tu comprendras également que dans l'évolution de son projet, elle a acheté toutes les propriétés et tous les terrains avoisinants pour permettre à son monstre de se développer de manière anarchique. À ce moment-là, au moment de son décès en 1922, la maison Winchester est, et elle demeure encore aujourd'hui, la plus grande maison privée au monde. Donc, même si aujourd'hui elle est devenue une attraction touristique, ça, ça demeure quand même une propriété d'un individu ou d'une individu. C'était pas la propriété d'un gouvernement, c'était la propriété d'une femme et c'était la plus grande propriété au monde. Au moment de la mort de Sarah Winchester, comme elle n'a pas d'enfant, parce que après le décès de sa fille, elle et son mari, quelques années après, elle ne s'est jamais remariée, elle n'a jamais eu d'autres enfants. Donc, à son décès, comme elle n'a pas d'héritier, elle va céder tous ses biens à l'une de ses nièces, une certaine Marion Marriott, qui, elle, va s'occuper de... Personne ne veut acheter la maison et personne ne veut la louer. Tu comprends, c'est pas louable, ce genre de truc-là. Elle va, pendant des semaines, des camions complets vont s'occuper de sortir le matériel qui est dans la maison. Donc, tu t'imagines ça, là, pratiquement 24 heures sur 24, pendant des semaines, des camions vont et viennent pour finalement vider la grande maison Winchester et on se retrouve avec une grande coquille vide.
L'avait-elle bien meublée? Est-ce qu'elle avait une obsession, justement, pour cumuler des objets ou non? C'est qu'il y a 160 pièces à vider, tu sais.
Non, en fait, toutes les pièces étaient particulièrement bien meublées.
OK.
Mais certaines des pièces, et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il y a encore quelques années, on a trouvé une nouvelle pièce.
Ah.
Là, il y a des pièces qu'à un moment donné, pour des raisons assez obscures, Sarah Winchester décidait que cette pièce-là, je n'en veux plus. Donc, la pièce dont je te parle, qui était trouvée il y a 3 ou 4 ans à peu près, ce que Sarah Winchester avait fait, c'est que simplement, elle a fait fermer le mur, et puis on a mis un papier peint sur le mur, et voilà. Et personne ne se doutait que derrière le papier peint, il y avait une porte et une autre pièce derrière. Et tu peux pas te fier, parce que souvent on va dire, oui, mais tu regardes les fenêtres à l'extérieur. Pas vraiment. Parce que si tu fais le tour de la propriété, hein, comme je t'ai mentionné, il y a 10 000 carreaux aux fenêtres, là, c'est qui représente des centaines de fenêtres. Il y a des fenêtres qui donnent sur des murs où il n'y a rien derrière.
C'est ça.
Donc, c'est pas indicatif qu'il y a forcément une pièce derrière une fenêtre.
S'il y a une porte qui mène nulle part, fie-toi pas aux fenêtres, là.
Voilà. T'as plus compris. Donc, personne s'était vraiment préoccupé de ça. Et puis voilà, au moment où on aménage, on fait de la restauration, mais on découvre que derrière ce papier peint, il y a une porte qui donne sur une pièce qui était meublée, meublé, il y avait peu de choses à l'intérieur, mais quand même qui était meublé avec des objets de cette époque qui avaient appartenu à Sarah Winchester. Donc, au moment de son décès, pendant des semaines, on va vider la maison Winchester. On se trouve avec une grande coquille vide. La propriétaire, l'héritière, n'arrive pas à vendre la maison. C'est immense, c'est énorme. Et finalement, la maison sera, bon, elle va la léguer à 2 ou 3 personnes qui vont se l'échanger, des courtiers qui espèrent vendre la maison et faire un gros profit. Ça ne se produit pas. Et finalement, la ville va faire une offre de racheter la maison pour à peu près le prix, en fait, pour une poignée de pain, parce que ce sont les taxes impayées de la maison qui paient, parce que la maison va rester vacante pendant un temps, là. Même s'il y a des gardiens à l'intérieur, elle n'a pas une véritable occupation.
Ils se sont repayés avec ce qui était pas payé.
Éventuellement, comme la maison continuait d'accumuler des dettes, bon, les gens qui en avaient la possession ont accepté de la vendre. Et là, à partir de ce moment-là, on est à la toute fin des années 20, c'est quand ça n'a pas quand même pris énormément de temps, mais à la fin des années 20, la maison est déjà passé comme étant une propriété de la ville et pour le comté de Santa Clara. Et à partir de là, elle va devenir une attraction touristique. Donc, voici... Et là, bien sûr, il y a l'histoire qui entoure Sarah Winchester, hein, cette femme omnubilée par les fantômes qui construisait cette maison impossible sur les recommandations des esprits et des fantômes. Et avec ça... Bien sûr, il y a toutes ces légendes, ces histoires que la maison serait hantée, etc. Bon, et un lieu comme celui-là ne peut pas être complètement exempt de ses fantômes et de ses spectres. Et là, moi, j'arrive sur place, avec la ferme intention de déterminer qu'est-ce qui est vrai et pas vrai. Et là, je découvre que les archives historiques vont pas tout à fait dans le même sens que la légende.
Hein?
D'abord, toutes les archives historiques qu'on a sur l'histoire de Sarah Winchester... Aucune d'entre elles ne parle des esprits ou des fantômes. En fait, Sarah Winchester n'avait absolument rien au monde qu'elle, à un moment donné ou un autre de sa vie, qu'elle ait eu quelques intérêts que ce soit pour le spiritisme. Zéro. Ensuite, ce qu'on découvre également, c'est que c'est vrai qu'elle était superstitieuse, c'est vrai qu'elle avait cette obsession pour le nombre 13. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'archive historique qui nous permet de comprendre pourquoi elle était comme ça. Mais visiblement, ce n'est pas forcément lié à des histoires de fantômes. Parce que, comme je l'ai mentionné, toute l'histoire des médiums qu'elle va rencontrer, qui disent qu'on construit une... Tout ça, là, c'est absolument pas documenté. En fait, toutes ces histoires de fantômes, crois-le ou non, sont nées d'abord, dans un premier temps, aux alentours de 1915. Il n'y a rien avant. En 1915, Sarah Winchester est vivante. Et on a des témoignages dans les archives historiques, des témoignages de gens qui travaillaient à la maison Winchester et qui racontent que Sarah Winchester... Il y avait cette rumeur qui circulait en ville que Sarah Winchester faisait construire une maison, il y avait des histoires de fantômes. Sarah Winchester se moquait de ça. Parce qu'il y avait rien de vrai là-dedans. Elle trouvait ça amusant de voir tout ce que les gens pouvaient raconter à propos de la maison.
Ça faisait jaser. Peut-être que c'est parce que c'était une veuve.
Ouais, c'est ça. Ça faisait jaser. Et en fait, ce qu'on découvre également dans les archives historiques, c'est que Sarah Winchester avait une passion. C'était pas les fantômes, sa passion. C'était l'architecture. Donc, Sarah Winchester est une veuve. On peut remettre ça dans le véritable contexte historique qu'on peut vérifier. Toutes les histoires de fantômes, tout ça, là, c'est un peu là, de la poudre aux yeux. La vérité est la suivante. Sarah Winchester est une veuve épleurée qui se passionne pour l'architecture et elle décide d'aller en Californie. Elle a de la famille en Californie et elle se retrouve donc dans cette région-là, au sud de San Francisco, et décide de faire construire cette maison. Elle a une fortune inépuisable et comme elle s'intéresse à l'architecture, c'est l'occasion pour elle, ça devient une véritable passion. Donc, elle s'amuse à faire construire des murs, faire tomber des murs, en rajouter, en enlever, faire construire un escalier, en retirer, ajouter une porte, pas de porte. Il y a rien, mais absolument rien dans les archives historiques qui permet de prêter foi à toutes ces histoires de fantômes, d'obsessions qu'elle aurait développées par rapport au décès de sa petite fille, au décès de son mari. Tout ça, il n'y a rien de documenté là-dessus. Et en fait, les grandes légendes de fantômes vont apparaître plus tardivement après sa mort. Donc, à partir du moment où Sarah Winchester décède en 1922, la maison va rester un peu abandonnée. Il va y avoir un gardien, bien sûr, qui va rester là. Il y a ce débat. Hein? L'héritière de Sarah Winchester ne veut pas garder la maison. Elle cherche à la louer, la repasse entre les mains d'agents immobiliers avant qu'elle repasse entre les mains de la ville. Et c'est durant cette période où on va voir apparaître de plus en plus ces histoires de fantômes, de spectres. Mais il n'y a rien de ça qui remonte du vivant de Sarah Winchester ou qui soit documenté de quelque façon que ce soit. Et bien sûr, quand j'étais sur place, donc les archives historiques ont comme pété ma balloune. Hein, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est une femme simplement une femme excentrique. Et c'est de son vivant, c'était une femme qui était excessivement réservée, qui parlait peu. Mais les gens qui l'ont côtoyée, et là aussi les archives historiques sont assez éloquentes là-dessus, les gens qui ont travaillé pour elle, ou que ce soit des menuisiers, que ce soit des domestiques, jamais Sarah Winchester a mentionné quoi que ce soit à propos des fantômes ou des esprits. C'était une femme qui était excessivement réservée. Et elle avait, c'est vrai, cette obsession pour le nombre 13, mais superstitieuse pour quelle raison? On ne le sait pas. Et quand on parle des histoires de fantômes, moi, évidemment, j'ai essayé de documenter des apparitions de fantômes. Et ce qui est assez amusant, c'est que tous les employés que j'ai consultés, écoute, on avait une carte blanche, moi et Michel Meunier, on arrivait là, lui avec sa caméra sur l'épaule, moi, l'enquêteur du paranormal, on avait une carte blanche pour faire à peu près tout ce qu'on voulait. Fait qu'on interrogeait les employés et c'était assez amusant parce que tout le monde connaît les histoires de fantômes. Il y a des histoires de fantômes qui circulent, mais on trouve jamais la personne qui l'a vu, le fantôme. Tu comprends? On disait, bon, par exemple, la femme qui travaille dans la boutique souvenir me dit, ah oui, ça, c'est comme une guide, c'est Françoise qui aurait vu le fantôme. Mais quand on parle à Françoise dit, non, c'est Monique qui m'a dit ça. Et Monique, c'est quelqu'un qu'elle connaît qui a vu le fantôme. Okay. Donc, c'est toujours l'homme qui a vu l'ours. Mais je n'ai pas trouvé personne qui disait, ben, moi, je l'ai vu, le fantôme. Et, ce que l'on avait, bien sûr, c'est une résidence qui est gigantesque et on se perd dans les corridors. Donc, bien sûr, quelques employés avaient quelques petits sentiments subjectifs. J'ai eu l'impression d'une présence. J'ai eu l'impression de me faire toucher. J'ai eu l'impression de sentir un souffle.
Ça, c'est tellement facile de se convaincre, Christian.
Bien sûr, tu es dans une maison qui est gigantesque, qui est unique au monde et qui est entourée de ces légendes de fantômes. Donc, il n'en faut pas beaucoup pour se convaincre que j'ai senti un souffle dans le cou, j'ai senti un mouvement, j'ai eu l'impression d'une présence. Mais jusqu'à maintenant, Il n'y a pas de témoignage, de récit d'histoire de fantômes qui soit bien documenté ou qui a été étudié de manière rigoureuse ou qui ont été testés, si je puis dire, entre guillemets, de manière rigoureuse. Sauf, bien sûr, les spécialistes chasseurs de fantômes de la télévision. Donc, on a vu, et je raconterai pas tout, là, mais on m'a raconté comment ça se passait, là. Des équipes comme Ghost Adventure, de Zach Bagans, puis tout ça, ces gens-là arrivent, débarquent avec le caméra, on va faire un gros show, et là, on attache une petite corde ici, une petite corde là, puis on s'assure d'ouvrir une porte, puis que ça grince à un moment donné, que ça coince à un autre moment donné, pour s'assurer qu'on aura des bonnes histoires de fantômes à raconter au public. Mais dans la réalité, dans des conditions rigoureuses, rien de ça ne s'est jamais produit.
Mais
donc, on a une maison tout à fait fabuleuse, construite de manière anarchique par une veuve excentrique. Et autour de ça, s'est greffé avec les années des histoires de fantômes, des légendes de fantômes, devrais-je dire. Mais bien sûr, rien de ça n'est jamais documenté. Ce qui est surprenant, même si on sait ça, hein, parce que quand t'es là, il y a un conservateur de la maison, puis les experts de la maison, quand tu lui parles en privé, ils le savent tous. Moi, je lui racontais ça, je dis, je sais que c'est pas vrai. Mais la maison exploite la légende du fantôme. Même dans les brochures et les petits fascicules, les petites monographies qu'on peut trouver sur place, on exploite continuellement cette histoire de légende. Même quand on est dans la boutique, hein, l'histoire de la maison Winchester, ce qu'on nous raconte, c'est l'histoire que je vous ai racontée. Cette veuve éplorée qui va voir un médium qui lui dit de construire une maison pour les fantômes. Alors que tous les gens qui travaillent ou qui sont près de l'histoire de la maison savent très bien que ce ne sont que des légendes beaucoup plus tardives qui ont été racontées sur Sarah Winchester, mais que rien de ça ne tombe dans le domaine du véridique ni même du vérifiable.
Somme toute, ne vous empêchez pas d'aller la voir. Ça reste de l'histoire, parce qu'en matière d'architecture, c'est intéressant, mais c'est aussi la plus grosse demeure privée dans le monde jusqu'à maintenant, comme tu l'as mentionné.
Donc j'espère que je sais que les gens vont dire « Oh non, il y a encore quelqu'un de nous, on aimait ça, l'histoire du fantôme. » Mais bon, comme tu dis, il ne faut pas gâcher son plaisir. C'est vraiment une résidence qui est remarquable. Et j'ai des souvenirs tout à fait fabuleux. Le temps qu'on a passé dans cette maison-là, des trucs amusants qu'on a fait. Bon, on s'est fait ramener à l'ordre à quelques reprises. On exagérait un peu. Mais il y a toutes sortes de passages secrets. c'est quand même incroyable. Tu sais, le caméraman, bon, Michel Meunier filmait. De coup, Christian, j'étais passé dans un passage secret. Je suis revenu dans la pièce d'à côté. Écoute, il y a des trucs, c'était fabuleux. Tu dis, c'est un décor de cinéma. C'est incroyable. Wow. Mais bon, bien sûr, il y a tout cette aura de mystère qui l'entoure. Mais malheureusement, il n'y a rien de tout ça qui est vérifiable. Pour la plupart de ces histoires-là, elles reposent essentiellement sur des légendes.
Mais Christian, un gros merci. Je te souhaite une excellente fin de soirée. Les auditeurs ont apprécié, je le sens, juste avec les photos que tu as publiées. En plus, ça fait rêver ce labyrinthe ou ce jeu d'évasion carrément dans la maison Winchester. C'est à voir une fois dans sa vie.
Oui, absolument. Si on s'intéresse aux histoires de fantômes et à l'histoire du paranormal, je pense que la maison Winchester doit être sur notre liste. C'est un incontournable.
Ben merci à toi de nous avoir partagé ce phénomène-là et on se reparle demain.
OK, parfait. Bonne soirée.
Toi aussi.